Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on édifia le temple, on n'employa que des pierres déjà entièrement taillées. De sorte que, pendant la construction, on n'entendit aucun bruit de marteau, de pic ou d'autres instruments de fer dans le temple. En lisant 1 Roi 6, nous trouvons cette description de la construction du temple. La construction du temple. Et vous savez déjà que c'était le roi Salomon qui a reçu les instructions, les plans, le matériel, tout ce qu'il fallait pour faire construire, pour bâtir ce temple, cette maison pour l'Éternel. C'était justement ça que David avait souhaité, c'était de rendre grâce à Dieu, de lui donner une maison, de donner à Dieu une maison. Il voyait ses propres lieux, ses propres habitations, son domicile à lui, et il pensait, si moi j'habite dans un lieu comme ça, dans une maison comme ça, la maison de Dieu doit dépasser ce que moi je vois autour de moi. C'était son inspiration, c'était sa volonté de servir Dieu qui l'a poussé jusqu'à ce point de faire tellement de préparatifs pour la construction du temple. Cette construction du temple a impliqué tout le peuple presque d'Israël. Tout le monde, dans une façon ou dans une autre, était impliqué dans la construction du temple. Et ça nous rappelle aussi de la construction du tabernacle, lorsqu'ils étaient toujours dans le désert. Presque tout le monde avait un rôle à jouer. Et si vous regardez la construction, la préparation du tabernacle, des familles entières ont été désignées pour faire ce tâche-là, pour faire celui-là, et pour rendre service. Et même après la construction, même après la fabrication du tabernacle, c'était nécessaire d'avoir des gens qui portaient, qui démontaient, qui montaient. Et souvent, quand je lis ces choses, je pense à l'implication de nous tous dans la congrégation ici. Et nous avons tous besoin les uns les autres pour accomplir quelque chose qui rend gloire à Dieu, qui est digne devant les yeux de l'Éternel. Donc, quand nous lisons ici qu'ils avaient cette instruction d'aller encore plus loin que même pendant la construction du temple, il n'y a eu aucun bruit comme ça. Nous le trouvons ici, au verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison de Dieu, je dis Dieu, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Donc, c'est ça. C'était pas suffisant, peut-être, à leurs yeux, de simplement bâtir quelque chose de très, très impressionnant. C'était pour moi quelque chose qui marque, pour moi, ça souligne l'aspect spirituel, l'aspect mental dans ce que nous faisons. Pas seulement construire quelque chose, mais le construire même dans un comportement, dans une attitude qui rend grâce à Dieu, qui est digne de Dieu et de sa présence. Est-ce que nous pouvons dire que quand nous faisons notre train-train quotidien et quand nous faisons, c'est une expression peut-être française, mais on est au Québec, mais je l'utilise quand même, quand on fait ces choses tous les jours et quand on arrive à l'Assemblée toutes les semaines, est-ce que nous sommes de cette même façon? Est-ce que nous avons une attitude, un cœur dévoué à Dieu, un cœur qui est prêt à servir, ouvert à son instruction et qui n'est pas en train d'avoir, de faire un bruit, une distraction, quelque chose qui serait détourisante sur l'activité en cours? C'est sûr qu'on ne nous demande pas de construire une salle toutes les semaines. On ne nous demande pas de construire même un bâtiment comme les Mormons. Ils le font, un grand bâtiment. Ils ont un très grand bâtiment même ici au Québec, peut-être même plusieurs. Et ils l'appellent leur temple aussi. Et si vous connaissez Salt Lake City, dans l'État de Utah, nous y sommes déjà allés, ils ont construit un temple là-bas, en essayant de suivre les instructions un peu, même si mélangées. Mais l'idée de le faire, c'était à rendre grâce à Dieu, à faire quelque chose digne de sa présence. Nous n'avons pas cette instruction dans le Nouveau Testament, par contre. Nous n'avons pas cette instruction de bâtir une maison physique pour l'Éternel de cette façon. Mais le fait qu'il y a tellement de parallèles entre le temple, entre les pierres du temple, entre les efforts du peuple et l'effort de Dieu à mener ce peuple à créer une nation sainte, une nation qui était digne de son nom, alors nous avons bien de parallèles dans le Nouveau Testament, dans notre vie chrétienne, pour nous instruire, même, et je trouve que c'est un bon exemple ici. C'est une révérence pour Dieu. Ce verset est basé sur une révérence pour Dieu, que le travail se faisait en silence. C'était ça, le but de ça, c'était pour la révérence de Dieu. Donc, dans l'Antiquité, on n'était pas là, mais on sait, il n'y avait pas de grue. Il n'y avait pas de grue de la même forme, au moins, que nous avons aujourd'hui. C'était quand même des bras. C'était des bras, des chevaux, des animaux, des cordes, des choses qui se servaient comme machines, si vous voulez, à bouger ces pierres, à les enlever, à les préparer, et puis ces fondations étaient posées avec une pierre d'angle qui servait d'assise et de référence pour l'ensemble de la construction. Intéressant qu'aujourd'hui même, on continue, on peut faire les choses de pareil. On peut continuer sur ce même principe d'avoir une pierre d'angle d'un bâtiment. Si vous voyagez un peu, vous allez peut-être voir de temps à autre des pierres d'angle de certains bâtiments aux États-Unis, c'est assez commun, et il y aura une petite inscription, cette pierre a été posée par telle personne sur quelle date pour inaugurer la construction de ce bâtiment. Maintenant, c'est sûr que les constructions sont un peu différentes maintenant, avec les fondations en béton banché qui soutiennent des moellons, mais le principe est pareil. On a besoin d'une sorte de pierre angulaire ou quelque chose qui dirige la construction du bâtiment. Donc, à la fois, nous avons cette attitude mentionnée ici, cette révérence pour Dieu, et la mention aussi du fait que les pierres étaient déjà prêtes pour être posées sur place. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de reporter avec moi à 1 Pierre 2, un passage connu, 1 Pierre 2, où nous voyons quelque chose qui, comme je vous ai dit, démontre et explique, souligne, si vous voulez, ce parallèle entre la construction du temple et quelque chose qui est en cours actuellement. Maintenant, aujourd'hui, pas seulement ici, à Saint-Hyacinthe, mais de par le monde, là où Dieu travaille avec son peuple. Ce sont des choses qui sont en cours dès maintenant. Et il ne faut jamais oublier que Dieu œuvre, que son œuvre, que son travail continue, que ses efforts, que son plan ne cesse pas d'avancer. Et que nous ne sommes pas un produit fini maintenant. Nous ne sommes pas encore à la fin de la construction de l'Église, si on peut utiliser ça comme parallèle, parce qu'il reste du temps devant nous pour que Dieu appelle d'autres personnes dans son Église. Nous avons de nouvelles personnes dans l'Église, et donc nous ne pouvons pas nous contenter de dire « Ah, c'est fini, on attend l'arrivée de Jésus-Christ, on attend le jour de son arrivée, et là, on n'a plus de travail à faire. » Non, ce n'est pas ça que Pierre nous dit ici. Il parle dans le présent. Il parle dans le présent progressif, si vous voulez, le présent qui continue, comme c'est quelque chose qui est en cours, qui n'a pas cessé et ça n'a pas cessé non plus jusqu'à nos jours. Lisons maintenant dans 1 Pierre 2 et le verset 4, on va commencer ici. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. De qui parle-t-il, Pierre? De qui parle-t-il? Le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Il est décédé, n'est-ce pas? Il a été ressuscité et on va s'approcher de lui. Je souligne ceci parce que plus tard dans ce serment, on va revenir à ce principe de s'approcher de lui. Approchez-vous de lui, on peut mettre entre parenthèses Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. » Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il y a beaucoup de confusion qui circule dans le monde aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas Jésus-Christ. Les gens ne comprennent pas l'idée que Jésus-Christ nous a pas enlevé la loi de Dieu. Il n'a pas aboli la loi. Il n'a pas fait en sorte qu'on ne peut plus pécher non plus. Donc les gens mal comprennent aujourd'hui le rôle et la personne de Jésus-Christ et ce qu'il a accompli ici-bas sur la terre et ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Il y en a qui pensent diverses et variées des idées. Mais ce qu'il est clair ici de l'apôtre Pierre, c'est que nous avons un rôle, nous, qui nous avons déjà décidé de rejeter la méchanceté de ce monde, le péché de ce monde. C'est comme ça qu'il avait commencé, de rejeter la méchanceté et la ruse, la dissimulation, les choses comme ça qui font partie de ce monde. Nous avons déjà fait ce choix d'être nourris par un lait spirituel, un lait qui est censé de nous développer et de nous préparer pour quelque chose dans l'avenir, et aussi de nous donner la force de surmonter le monde dès aujourd'hui. C'est par sa force que nous obtenions le salut, que nous allons réussir. C'est par sa force. Nous sommes tout faibles sans lui. C'est pour ça que nous avons besoin de s'approcher de lui. Mais c'est qui la pierre vivante? C'est qui? C'est quoi son rôle? Cette pierre vivante, apparemment, c'est assez important, son rôle. Apparemment, c'était une pierre choisie et précieuse. Une pierre angulaire aussi qui était posée pour que l'Église soit bâtie sur lui. Posée avec une intention très directe, très apparente, très claire. Il n'y a pas de dissimulation. On l'a déjà rejeté, la dissimulation. On comprend que Jésus-Christ sert de pierre angulaire. Donc, cette expression « pierre choisie » est particulièrement judicieuse parce qu'elle se réfère à la construction du temple de Salomon aussi, qui fut assemblé comme un gigantesque puzzle, finalement. Si on n'avait pas le droit de toucher au marteau, au pic, de faire un bruit avec le fer, on était obligé, on ne pouvait pas dire « Non, cette pierre-là, on a besoin de le refaire. » Si on avait besoin de refaire une pierre en ce moment-là, il fallait l'enlever du site de la construction, le faire tailler et puis le faire revenir. C'était un effort énorme, si vous imaginez les pierres de taille qu'ils avaient utilisées. Et donc, par révérence de Dieu, pour Dieu, le travail se faisait en silence, avec des pierres particulières et avec une pierre angulaire aussi. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples de référence à Sion. Je mets en Sion une pierre angulaire. Le mot Sion est fréquent et désigne l'aspect spirituel et glorieux de la ville de Jérusalem dans le passé, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Sion symbolise la nouvelle alliance et les bénédictions de Dieu. Tandis que le mont Sinaï, où fut donnée la loi, représente une sorte l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est cette alliance spirituelle, cette nouvelle alliance. Et donc, nous avons une référence ici dans le Nouveau Testament par l'apôtre Pierre qui nous réfère à l'Ancien Testament. Il y a quand même quelque chose qui se développe, un lien qui est tissé ici. Jésus-Christ est la pierre à l'angle de l'édifice. Il est le soutien de ce bâtiment, c'est-à-dire l'Église. On s'appuie sur lui pour trouver la stabilité, tout comme une construction repose sur une pierre angulaire, aujourd'hui des fondations. Alors Dieu lui promet que celui qui a la foi en lui ne connaîtra jamais le déshonneur, et c'est aussi cité de l'Ancien Testament. C'est impressionnant, cette promesse. C'est quand même impressionnant. Mais c'est encore une fois un rappel que ce n'est pas de notre pouvoir, c'est par son pouvoir que nous obtiendrons le salut, la vie éternelle, la première résurrection. L'honneur est pour lui, pas pour nous. Mais c'est intéressant que Pierre dit, verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Comment est-ce que c'est possible qu'à la fois une pierre serve quelque chose de bien et quelque chose de mauvais en même temps? Comment est-ce que c'est possible que Jésus-Christ serve de pierre d'achoppement? Christ est une fondation sûre. C'est notre roi déjà et nous vivons d'après sa loi. Christ est le chef de l'Église, il est la tête, si vous voulez, et il a été choisi et précieuse. C'est une pierre choisie et précieuse. Aujourd'hui, nous avons cette pierre précieuse qui est notre fondement. C'est le fondement de tout ce que nous faisons dans l'Église. Et ça veut dire que si nous sommes en train de s'appuyer sur lui, nous avons un fondement solide. Si nous quittons ces fondements, nous marchons sur le sable. Nous n'avons pas de fondement solide sans s'appuyer sur lui. Même plus loin, verset 8, c'était « Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. » Et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est le scandale, l'achoppement. Verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Donc, notre préparation, comme faisant partie de ce temple spirituel, cette maison spirituelle, notre rôle est importante. À cause du fait que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est le Père qui nous a appelés, c'est Jésus-Christ qui nous donne accès par son sacrifice à la vie éternelle et à la gloire un jour aussi, pas pour aujourd'hui, et à la possibilité aujourd'hui à persévérer jusqu'à la fin. Sans lui, sans cette pierre angulaire, cette pierre de fondement, nous n'aurions pas la force pour persévérer. Ils sont destinés, qui? Ils sont destinés à se heurter à la pierre angulaire. Mais pourquoi ils s'y heurtent, verset 8? Pour n'avoir pas cru à la parole, et aussi on peut dire que parce qu'ils désobéissent à la parole. S'ils n'ont pas cru, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de suivre, de vivre par la parole. C'est un jugement. Mais ce jugement était précédé par la parole de l'évangile du royaume de Dieu. C'est important de ne pas rejeter cette pierre angulaire. Considérant Luc chapitre 4 pour comprendre un petit peu mieux cette idée de rejeter la pierre angulaire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Luc chapitre 4 et le verset 16. Luc 4 et le verset 16. Si tout était prévu pour depuis l'Ancien Testament, pourquoi les gens seraient en train de rejeter Jésus-Christ? C'est un passage assez long, mais ça nous démontre jusqu'à quel point les gens ici ont vraiment rejeté la parole. Luc 4 et à partir du verset 16. En parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Donc on peut imaginer qu'il était devant. Et puis, quand il a marché pour reprendre sa place, on peut imaginer les têtes qui tournaient. Au lieu de se fixer les yeux devant, c'était lui le sujet de tout le monde à cette assemblée dans la synagogue. Verset 21, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Puis verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais, verset 30, Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ils étaient prêts à mettre Jésus-Christ à mort en ce moment-là, dans sa propre patrie, si vous voulez, dans sa région de Galilée. Ils ont rejeté celui qui annonçait la vérité. Ils ont rejeté cette pierre angulaire. Mais qu'est-ce qui se passe? D'après Pierre, il dit que la pierre est la pierre principale, l'angle de l'édifice. L'Église, en ce moment-là, n'était pas bâtie. C'était le ministère de Jésus-Christ qui allait commencer. Et les gens allaient déjà rejeter cette parole. Ils allaient déjà rejeter celui qui a été envoyé pour leur donner accès à la vie éternelle. Malgré cela, Jésus-Christ avait la compassion pour ces gens. Il avait la compassion. Et il a cité dans ce passage la prophétie d'Ésaïe. Et même Pierre nous rappelle de la prophétie d'Ésaïe aussi. On va reprendre 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 de nouveau. Encore une fois, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'était nécessaire que Jésus-Christ soit mis à mort pour notre bien. Nous avons discuté la semaine dernière la souffrance nécessaire de Jésus-Christ, le fait qu'il a souffert pour notre bien, lorsqu'on était toujours pécheurs. Donc, c'est en ce moment-là que il peut servir aussi de notre sauveur, de notre accès à la vie éternelle. Parce que ce sacrifice en sang versé, c'est ça qui arrive à nous purifier, à nous laver de nos péchés. Avant cela, le système lévitique dépendait sur des sacrifices qui enlevaient le péché, mais qui n'avaient pas les mêmes promesses de la nouvelle alliance. Et même si les prophéties indiquaient l'arrivée de ce sauveur, le Messie, les gens ont rejeté la forme, la personne de Jésus-Christ qui était envoyé. Et je me demande si on dit « il était envoyé », alors il était envoyé par qui? Et d'où est-il envoyé? S'il était envoyé, et s'il était envoyé par le Père, alors Jean chapitre 1, ça semble avoir raison, ça a du sens. Jean chapitre 1 et le verset 1. C'est l'importance de sa venue ici. Jean 1, 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est un résumé de ce rejet de la pierre angulaire. Ça va plus loin. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ça veut dire rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Pierre se réfère à la même chose. Une pierre posée ici, c'est une pierre posée, c'est une pierre envoyée, c'est la parole envoyée par le Père. Mais il y en a qui vont rejeter celui qui sert de pierre angulaire. Et pour eux, ça devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une roche, sur un rocher qui a été assez dur? Est-ce que vous avez ressenti vos blessures assez rapidement? Des fois, je me souviens, en faisant la randonnée, des fois, on pense qu'on a bien pris le chemin, et puis il y a peut-être une sorte de poussière, de micro-rocher qui, sur une grosse plaine, un gros table de roche, ça nous fait glisser et on peut trébucher, on peut hop, on tomber à plat sur un gros pièce de pierre. C'est pas comme une trampoline. Hein. Ça ne donne pas, ça n'a pas d'amortissement. C'est vous qui amortissez. C'est votre corps qui se heurte contre cette grosse roche. Ce rocher. Et c'est la même chose. Quand les gens rejettent la parole, quand les gens rejettent, et c'est un peu l'état des humains, ils se font mal. Mais encore plus si on a reçu la parole et on le rejette. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui... cet avertissement de Pierre qui est accompli en ce moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que ici, Pierre parle aussi d'un certain processus en cours. Verset 9, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous voyez, vous entendez les échos de Jean chapitre 1, verset 14 et verset 3, verset 1 à 3? Moi, je l'entends. Envoyé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu dans certains cas. Donc, nous avons la bonne nouvelle que si nous appuyons sur la pierre angulaire, Jésus-Christ, nous pouvons participer à tout ce qui se trouve dans cette liste. Et c'est ce que Dieu avait choisi de faire. C'est un plan qui existe depuis avant le fondement, avant la fondation du monde. Ça fait partie de ce que nous appelons le plan de salut. Un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Beaucoup de choses qui définissent notre état présent et notre état futur. Ça représente les promesses de Dieu accomplies par Jésus-Christ dans sa vie parfaite, son sacrifice et sa résurrection. Nous avons accès à ces choses par lui. Dieu nous a appelés des ténèbres. Il nous a appelés de la voie du monde qui mène à la mort. Il nous a appelés pour nous montrer sa vérité, pour nous ouvrir les yeux et pour que nous puissions voir cette lumière merveilleuse qui est la vérité. et encore plus loin, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Donc, ça veut dire que quand nous chantons les cantiques, nous annonçons ces vertus, quand nous discutons les bénédictions que Dieu nous a accordées, nous annonçons ces vertus, quand nous discutons la vérité, les miracles que Dieu a accomplis pour son peuple dans la Bible, nous annonçons ces vertus. Et en plus, dans notre propre comportement, c'est indiqué que nous sommes un peuple particulier et que même si le monde ne comprend pas toujours pourquoi nous sommes différents, nous sommes un peuple qui n'est pas tout à fait comme le monde. C'est quelque chose qui est visible. Et même l'amour d'entre nous est visible et ressenti aussi par les gens du monde qui ne sont pas aujourd'hui appelés même. Ils savent des fois qu'il y a quelque chose qui est différent. Nous sommes un peuple saint. Saint veut dire mis à part pour un but particulier, pour accomplir quelque chose. Et je trouve très encourageant que dans 1 Pierre 2, nous avons ce rappel de l'importance que nous soyons édifiés pour former une maison spirituelle. Pour former une maison spirituelle, ça veut dire qu'il y a de l'unité dans les épîtres de Paul. Il parle souvent de cette unité, du fait que le corps spirituel, c'est l'Église, et que chaque membre du corps fonctionne pour l'édification du corps. C'est des fois les gens disent que Paul et Pierre n'étaient pas d'accord sur des points, mais moi je trouve une harmonie très intéressante et riche entre les deux. Pas un désaccord entre les deux. Ils se complètent dans plusieurs aspects. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple précieux. Deutéronome 7. Pas nous seuls, pas juste notre génération, mais c'est quelque chose qui est en cours depuis à peu près longtemps. C'est étape par étape que Dieu accomplit son plan. Quand l'apôtre Pierre écrit ces lignes, pour parler de l'importance de ce peuple, alors il avait des passages de l'Ancien Testament à l'esprit aussi, comme par exemple Deutéronome 7 et le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce mot précieux résonne ici. Le mot précieux qui est utilisé par Pierre aussi. C'est comme si nous ressemblons à la pierre angulaire pour que nous soyons construits, bâtis avec lui. Il faut lui ressembler, n'est-ce pas? Donc, Pierre dit que c'est la pierre précieuse qui a été rejetée. Il dit aussi que nous sommes des pierres précieuses maintenant. Que nous pouvons contribuer à ce bâtiment qui est l'Église. Donc, dans Deutéronome 7, nous avons cet exemple. Il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, Exode 19. Exode 19. Exode 19 et le verset 5 à 6. Il ne faut pas oublier que dans cette description, nous sommes encouragés d'imiter Jésus-Christ. Nous sommes obligés de s'appuyer sur lui pour avoir la force. Il ne faut jamais prétendre que ce soit nous qui ayons une force comme ça. Si nous nous disons, ou si nous disons aux autres que c'est nous qui émanons une sorte de force, sans donner accès, sans donner hommage, sans clairement dire que c'est Jésus Christ qui est notre force et l'Esprit Saint, la puissance de Dieu en nous, qui agit, alors nous sommes en train de nous décevoir. Parce que nous sommes en train de dire, c'est moi la pierre angulaire. C'est moi qui a la puissance. Notre humilité dans la vie chrétienne, c'est se soumettre à Jésus-Christ, à sa loi, à ses commandements, à son instruction, à son exemple. Il y a pas mal de gens aujourd'hui dans le monde entier qui se déclarent eux-mêmes une source de puissance. Ils veulent démontrer leur propre capacité, peut-être même dans les guérisons. Je connais personne, même dans notre attachement familial, qui ont pris cette décision que eux, ils vont poursuivre des guérisons. Ils vont essayer de faire en sorte que ça soit eux qui, quand ils disent t'es guéri, que voilà, que la personne soit guérie. C'est peut-être quelque chose qui risque, comme je disais, de se déclarer eux-mêmes comme une source de puissance, au lieu de s'appuyer sur la puissance de Dieu. Mais Exode 19 nous indique maintenant, verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Il y a une condition, hein? Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, ça veut dire obéir, car toute la terre est à moi. Pour moi, il y a encore des échos de Jean chapitre 1. Tout est créé par lui, pour lui. La terre est à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est comme une citation presque directe de l'apôtre Pierre, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, nous nous trouvons juste avant, à Sinaï, juste avant les 10 commandements. C'est le peuple qui s'est préparé pour recevoir cette instruction, qui était censé être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'ils sont entrés en terre promise, ce peuple-là? Pas la génération qui est sortie d'Égypte, la génération mentante après. Ils ont passé 40 ans dans le désert avant d'y entrer. Et c'était Josué et Caleb qui sont entrés en terre promise. Et les petits qui avaient grandi. Mais le peuple ici n'a pas obtenu ce grand appel, cette désignation, si vous voulez. Et c'est une bonne question pour nous de nous poser, c'est est-ce que je me comporte comme faisant partie de quelque chose décrit ici par l'apôtre Pierre qui rend grâce à Dieu, qui est précieux? C'est certainement vrai que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais est-ce que notre comportement reflète cette nature précieuse? Est-ce que nous sommes le reflet de la pierre angulaire? C'est un peuple que Dieu a formé pour publier ses louanges. Élu, précieux, un royaume de prêtres, nation sainte. C'est au lecteur de l'épître que Pierre a écrit que sont adressées ces mêmes choses. Et il tisse un lien entre ancien Israël et le rôle de l'Église de Dieu aujourd'hui. Mais sans oublier de souligner d'abord la pierre angulaire. C'est pour ça que nous nous préparons pour la Pâque. C'est parce que Jésus-Christ a vécu, il est mort pour nous à notre place. C'est pour ça que nous célébrons la Pâque chaque année. C'est parce que nous devons jamais oublier que c'est lui la pierre angulaire, que notre salut dépend de lui, pas de nous-mêmes. Nous avons besoin et nous reconnaissons le besoin de son sacrifice dans cette cérémonie solennelle tous les ans. Et si nous faisons une préparation pour cette cérémonie pour la Pâque, sans considérer l'importance de celui qui est mort pour notre bien, alors nous avons oublié de s'appuyer sur cette pierre angulaire. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis pour faire ces choses. Au moment où Pierre a écrit cette épître, les membres de l'Église étaient dispersés. Ils étaient persécutés. Certains fuyaient. Et il y avait même une campagne d'extermination qui a été organisée par l'empereur Néron. Et ils étaient sur le point d'être menés et lancés contre eux, ces exterminations. En apparence, ce peuple, ce sacerdoce royal, n'avait donc rien d'un peuple précieux, ni d'une race élue, sinon pour être massacré. Et pourtant, en acceptant la pierre angulaire, en s'appuyant sur lui, ils avaient confirmé qu'ils avaient été choisis par Dieu pour lui appartenir. Jésus même a dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Pourquoi Dieu laisserait à n'importe qui choisir le peuple choisi? Si Jésus-Christ était donné le rôle de choisir et d'indiquer ses disciples, alors ça veut dire que lui aussi, il avait un rôle important à jouer. En soumission, bien sûr, en se soumettant au Père et au commandement du Père, il servait le Père. Mais le salut que nous recevons, le salut qui est ouvert devant nous, dépend de la sélection que Dieu, le Dieu souverain, opère quand il choisit ses élus, quand il choisit à appeler. Nul peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, nous sommes choisis. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple saint, dans ce mis à part. Et nous profitons aujourd'hui des bénédictions de cet appel, de cette préparation. Donc, nous avons besoin de s'appuyer sur lui pour avoir la force et de rester fidèle à lui. C'est ça le symbolisme que quand on construit un temple, quand les pierres sont posées, quand tout est arrangé, on ne va pas enlever une pierre et retailler la pierre. Une fois que c'est posé, l'idée, c'est que ça reste en place, que nous soyons toujours conformes à lui. C'est notre rôle de rester en soumission à sa loi, à ses ordonnances, à ses commandements, et d'être toujours en train de marcher dans ses voies. Mais le peuple était rebelle. Le peuple l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était rebelle contre Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lu que la famille de la tribu de Lévi, celle d'Aaron, a été choisie comme les sacrificateurs. C'était pas tout le monde. C'était limité à une famille. C'était limité pour avoir un sacerdoce. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Nouvelle Alliance, nous avons accès à ce rôle pour l'avenir, d'être tous des souverains, des sacrificateurs, des rois sacrificateurs dans l'avenir. Nous sommes comme, dans une façon, nous sommes comme des descendants spirituels de cette race de personnes, parce que nous avons maintenant accès à l'Esprit de Dieu. Nous avons accès direct à prier au Père par Jésus-Christ. Nous avons cet accès auprès de Dieu, de s'approcher de lui. C'est ça. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ a une valeur infinie. Le sacrifice de Jésus-Christ a une valeur qui dépasse tous ceux qui sont déjà morts et tous ceux qui vont mourir. Parce que lui, c'était lui avec Dieu le Père à l'heure de la création. Et donc, sa vie vaut plus que la création en elle. C'est pour ça que son sacrifice est tellement important. Nous sommes appelés à appartenir à une maison royale. Et c'est un don, c'est un cadeau. Considérons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à propos de cette maison? Luc chapitre 22. Et à partir du verset 29. Luc 22, verset, on va commencer au verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Qui d'entre nous aurait ce pouvoir d'annoncer un telle chose? Qui, à part de celui qui était avec le Père dès le début, avant la création, qui d'autre aurait la possibilité d'annoncer un telle chose? Plusieurs fois, la Bible confirme la nature de Jésus-Christ, la nature de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous avons même, bien sûr, un bon rappel que nous avons souvent cité pendant la fête des tabernacles, que l'Apocalypse 26 recense ceux qui ont part à la première résurrection. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. C'est quelque chose que nous connaissons. Mais tout ça correspond à ce que nous venons de lire dans 1 Pierre 2. Donc, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est son Église. Le temple de Dieu aujourd'hui, spirituellement, c'est l'Église. Et Dieu a choisi de poser la pierre angulaire, et il s'est dépouillé lui-même, il l'a décidé lui-même sans avoir honte de mourir à notre place. Mais dans le monde, nous avons des ténèbres. plusieurs façons de ténèbres, mentionnées plusieurs fois ici. Nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Les ténèbres existent. Au niveau intellectuel, c'est l'ignorance, la méconnaissance de la vérité ou de la réalité. C'est ténébreux intellectuellement. Au niveau moral, les ténèbres sont l'incapacité de faire ce qui est bien selon Dieu. Et au niveau spirituel, c'est l'état dans lequel se trouvaient ou se trouvent tous les hommes qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés, qui n'ont pas accepté, à changer, à quitter la voie qui mène à la mort. Le monde ne sait pas qu'il est dans les ténèbres. Ce n'était pas encore le but de Dieu d'ouvrir les yeux de tout le monde, mais chaque étape, étape par étape. Mais nous avons le plaisir d'avoir les yeux pleins ouverts et de voir la vérité clairement. Et cet appel, cette possibilité, nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Comme Paul dit en Colossiens 1:13, Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, c'est comme sa main nous a pris comme ça les ténèbres et nous a placés dans la lumière pour qu'on puisse marcher vers son royaume avec les yeux ouverts, avec la possibilité de voir la vérité. Considérons maintenant Matthieu 2. Matthieu 2, en fait, j'ai quelques exemples à vous montrer. Je pense que c'est important. Matthieu 2, on va commencer avec un passage concernant peut-être quelque chose qui semblerait anodin au départ, mais vous allez voir que petit à petit, on construit quand même quelque chose d'intéressant avec ces passages, avec ces versets que je vais vous donner. Matthieu 2 et le verset 2. Jésus vient d'être né. Et sans aller dans les détails, qu'est-ce qui se passe ici? Au verset 2, ces hommes, au temps d'Hérode, ces mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu 2, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Hérode a triché en disant ça, mais il a même mentionné adorer. Le mot que je cite ici, c'est le mot proskuneo. On dit aujourd'hui en français se prosterner devant, adorer. C'est une belle traduction aussi. Proskuneo. Si vous faites une recherche dans le grec, vous voyez que plusieurs fois, il est mentionné de proskuneo Jésus-Christ. OK? Pas simplement de croire en lui, mais de l'adorer, de se prosterner devant lui. OK? Continuons juste quelques versets, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Je m'arrête là. Et je vous rappelle que Satan voudrait bien cela, ce type d'adoration, n'est-ce pas? Dans Matthieu 4, comme on est déjà en évangile de Matthieu, on peut examiner ça. Matthieu 4, verset 9. Matthieu 4, verset 9, qu'est-ce qui se passe? Satan dit ceci, le diable dit ceci à Jésus-Christ lui-même. Il lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est le même mot. Proskuneo, c'est se prosterner devant lui, c'est adorer, c'est ce que Satan voudrait. Et Apocalypse 13, souvenez-vous, J'avais besoin d'un petit rappel là-dessus pour trouver celui-ci, mais ça a bien fait la connexion après. Apocalypse 13, verset 4. Qu'est-ce que Satan voudrait? Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Adoration, proskuneo, c'est ce que Satan voudrait. C'est que nous ne faisons pas ça pour Jésus-Christ, mais pour lui. Matthieu 9. Matthieu 9. Cet exemple, frères et sœurs, c'est l'un des exemples touchants. Et ça nous amène à une phrase très importante que nous allons découvrir à la fin de ce chapitre. Mais Matthieu 9 et le verset 18. Maintenant, nous sommes dans le ministère de Jésus-Christ. Il a déjà appelé Matthieu. Il a commencé à prêcher. Il a commencé de guérir des démoniaques, de guérir des paralytiques. Il a déjà apaisé la tempête. Il a fait des miracles. Donc, il avait un peu le renom, comme c'était marqué dans plusieurs parties de l'évangile. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. C'est le même mot, proskuneo. Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, oh non, non, arrête, tu devrais pas se prosterner devant moi, c'est interdit parce que Dieu n'aimerait pas que tu te prosternes devant moi. Est-ce qu'il a dit ceci? Non. Il a répondu, et Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchait par derrière et toucha le bord de son vêtement. Encore un miracle. Un peu plus loin, on voit ses sentiments, on voit sa réaction à ces gens qui l'ont reconnu comme pierre angulaire. Peut-être pas en entière compréhension, mais ils avaient reconnu Jésus-Christ. Ils avaient décidé de s'appuyer sur lui pour leur guérison directe, pour l'intervention de Dieu, pour son intervention dans leur vie personnelle. Et il est parti de cette maison de ce jeune fille de Jairus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu des aveugles, au verset 27. « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Est-ce que nous avons compris la question? Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est pas juste n'importe qui. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire qui est capable de nous sauver et qui est capable de nous guérir aussi. Donc alors, il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Et j'arrive à mon point ici, verset 35. Donc, imaginez que ce type d'histoire se répète plusieurs fois, parce que même Jean dit, les choses qu'il a fait ne sont pas capables d'être tout racontées dans un livre. Et quand on comprend que il a parcouru toutes les villes et les villages, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Il a continué à faire la même chose, d'autres exemples que nous ne voyons pas ici. Et il y en a d'autres personnes qui ont répondu de la même façon en disant, « Oui, nous croyons, oui Seigneur, nous croyons que vous avez la possibilité de le faire. » Donc, qu'est-ce qu'il a vu Jésus? Verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand Jésus-Christ a noté que ces personnes étaient des brebis sans berger, il était ému, il fut ému. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est comme une transition aussi. C'est comme quand il a dit en Matthieu chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde. » C'est un transfert de responsabilité aussi. C'est nous qui s'occupons comme faisant partie de cette maison de Dieu, de l'Église de Dieu. C'est nous qui prenons le relais, si vous voulez, pour accomplir l'œuvre. Mais sans lui, on ne serait pas capable de le faire. On s'appuie sur sa puissance, sur son pouvoir. On s'appuie sur lui dans tout ce que nous entreprenons dans l'Église. On n'est pas en train d'établir pour chaque personne notre propre discipline, notre propre doctrine, notre propre œuvre à part. Sinon, on serait plus ou moins comme la foule qui était sans berger. C'est très significatif ici. Ésaïe 13, verset 4. C'est ce que nous venons vraiment de voir. C'est un accomplissement de nouveau. Ésaïe 13 et le verset 4. Si vous allez peut-être vous souvenir. On peut commencer ici. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Et puis, ils viennent d'un pays lointain. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Donc, ce que Jésus voit, quand il voit des brebis sans berger, quand il voit l'état du monde, c'est ce type de ruine. C'est la souffrance de ce peuple. Et Jésus était là pour combler leurs besoins. Il a vu un peuple qui était en mauvais état, on va dire. Ils étaient dispersés. Ils étaient sans de bons pâturages, sans de bons enseignements. Qu'est-ce qu'il nous dit pour le pain de vie, c'est que c'est lui le pain de vie. Est-ce que vous pensez que ce qui a été prêché dans les synagogues à son époque était édifiant pour les gens? Peut-être pas. Ils n'avaient pas un pâturage, ils n'avaient pas un... ils étaient comme des brebis, sans avoir... quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ils souffraient. Sa compassion est démontrée aussi dans Marc chapitre 6. sa compassion pour ces personnes dispersées. C'est le même thème. Marc 6, verset 34. Marc 6, verset 34. Sa compassion pour eux, pour les gens qui souffraient. Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, la pierre angulaire a établi la base, le fondement de l'Église en appelant ses disciples et en préparant ses disciples pour leur avenir. Mais cette idée de remplir un vide dans l'enseignement est quelque chose qui vient aussi d'un passage dans l'Ancien Testament, Psaume 119. Psaume 119 et le verset 176. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Je peux relire ça. Je suis errant comme une brebis perdue, cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Donc, on demande de l'enseignement de ces commandements ici. Et c'est ce que Jésus a fait aussi. C'était pas simplement juste la guérison par le miracle, mais de l'enseignement solide aussi. Et dans le même passage où nous avons commencé à étudier 1 Pierre 2, nous voyons que Pierre a traité ce sujet dans le même passage. 1 Pierre 2 et le verset, on va commencer au verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. On peut commencer ici au verset 22 plutôt. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc on parle encore une fois de la pierre angulaire de Jésus-Christ. Et puis son verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Nous aussi, nous étions des brebis errantes. Mais Dieu a choisi de nous appeler dès aujourd'hui, de faire partie de son Église. Si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme la pierre angulaire, si nous ne sommes pas capables de se prosterner devant lui, alors est-ce que nous acceptons ou est-ce que nous rejetons la pierre angulaire? Et si nous rejetons la pierre angulaire, est-ce que nous pouvons construire quelque chose de solide? D'après Pierre, non. D'après Pierre, non. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Jésus-Christ comme pierre angulaire, le fondement de notre foi, le fondement de l'Église, le fondement du corps de Dieu, le corps de l'Église, le corps de Christ, et c'est lui la tête. Donc, je touche à beaucoup de versets pour démontrer la compassion de Jésus envers nous, envers ceux qui l'ont accepté, ceux qui s'appuyaient sur lui, Je fais un rappel que c'est très important à nous tous de s'appuyer sur lui dans tout ce que nous faisons et de comprendre celui qui a été envoyé pour nous donner accès à la vie éternelle, pour payer la pénalité de nos péchés. L'amende de nos péchés, c'était la mort. Il a vécu une vie parfaite et il est mort à notre place. Sans son sacrifice, nous n'aurions pas accès à un système de pardon. Nous avons accès au pardon de nos péchés à cause de lui. Donc, c'est important quand même pour nous tous de comprendre la signification de sa vie, de sa souffrance, de sa résurrection et du fait que son objectif, c'était de servir comme pierre angulaire pour qu'on construise un temple spirituel là-dessus. Il y a quand même un parallèle que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, c'est que David souhaitait construire quelque chose pour Dieu, une maison pour Dieu. En construisant, en se servant de sa vie comme pierre angulaire et de sa mort et de sa résurrection, Jésus-Christ a commencé quelque chose, a commencé le processus de bâtir un temple spirituel. Et donc, nous faisons partie de quelque chose très important, même si notre vie quotidienne semble assez simple. Mais notre appel, notre futur, c'est de devenir quelque chose de précieux. Nous sommes déjà quelque chose de précieux devant Dieu. Mais nous faisons partie d'une œuvre qui est en continu, qui est en cours maintenant, pour édifier une maison spirituelle pour Dieu, basée sur la pierre angulaire de Jésus-Christ. Ceci devrait nous inspirer, nous donner du courage, parce que nous n'appuyons pas sur nos propres forces, mais nous avons toujours la possibilité, dans le besoin, de s'appuyer, et dans tout ce que nous entreprenons, de s'appuyer sur la pierre angulaire, sur Jésus-Christ. Donc nous acceptons son rôle, et nous, en préparation pour la Pâque, nous méditons ses souffrances, nous méditons sa vie, nous méditons sa compassion pour nous tous, parce que c'était volontaire. Nous, nous souffrons, et ce n'est pas vraiment volontaire, que notre vie, c'est la vie elle-même de l'être humain, on va voir une souffrance, plus ou moins. Mais Jésus-Christ a choisi de venir et de souffrir pour nous, à notre place. J'espère que ces choses vont nous aider à faire notre préparation pour la Pâque et la fête des pains sans levain dans les semaines à venir. Et j'espère que nous n'allons jamais oublier que la pierre choisie, la pierre précieuse devant Dieu, la pierre a été choisie pour bâtir une maison spirituelle.